Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Merci Seigneur. Ma chère Église, j'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Aujourd'hui, on transforme un peu. Au lieu de prêcher à la fin, je prêche maintenant. On terminera le culte avec encore des surprises tout à l'heure. Mais je voudrais vous donner une parole que le Seigneur m'a donnée cette semaine. Cette semaine, alors que j'étais en train de prier pour vous, je priais pour les leaders, je priais pour l'Église, je priais pour vous tout simplement. Et un moment alors que je priais, le Seigneur me parle et il me dit cette parole, est-ce que tu sais pour qui tu es en train de prier? Alors je lui dis, ben oui Seigneur, évidemment que je sais puisque je suis en train de prier pour eux, je les cite, c'est mes bien-aimés, c'est ceux qui t'aiment, ceux qui travaillent pour toi, c'est les leaders, c'est les uns et les autres de l'Église. Et le Seigneur, comme si le Seigneur me répétait une deuxième fois, il me dit, est-ce que tu sais pour qui tu es en train de prier? Alors, quand le Seigneur vous demande deux fois la même chose, vous avez intérêt à bien répondre. Et surtout à bien écouter en effet ce qu'il veut vous dire. Et à ce moment-là, alors je dis, mais Seigneur. Et alors c'est comme si le Seigneur me dit, tu es en train de prier pour des héros. Je dis, pardon? Le Seigneur me dit, tu es en train de prier pour des héros, pour mes héros. Et alors soudainement, mon intercession a commencé à prendre toute une autre ampleur. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et j'ai dit, mais Seigneur, je sais qu'ils sont courageux, je sais qu'ils t'aiment. Et le Seigneur me dit, non, tu es en train de prier pour mes héros. Pour des héros, c'est pas n'importe qui pour qui tu pries. C'est pas n'importe qui. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à réaliser combien d'entre vous, vous avez une vie héroïque. Une vie pour le Seigneur. Le Seigneur a commencé à me dire, il y en a beaucoup, ils seraient prêts à donner leur vie pour moi. D'autres pas encore, mais ça va venir. Et je sentais vraiment que vous êtes vraiment comme des héros du Seigneur. Alléluia. C'est pas pour vous vanter que je fais ça, mais c'est vraiment la parole que le Seigneur vraiment me donnait. Et alors quand je priais pour vous, je peux vous dire ça changeait beaucoup de choses. J'étais fier. À la fois, une certaine fierté, mais d'un autre côté aussi, je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est comme cela que tu nous vois? Est-ce que c'est comme ça que tu vois notre Église? Alors j'étais vraiment content. Et pendant toute cette semaine, cela a encouragé. Elle m'a vraiment encouragé. J'en ai parlé à mon épouse. J'en ai parlé à quelques-uns de mes amis. Je leur ai dit, mais quand je prie pour mon Église, je prie pour des héros. Alléluia! Amen! Et je sens vraiment que Dieu a quelque chose pour nous. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu préparer cette semaine. Vraiment, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, mais alors qu'est-ce que je vais leur dire? Eh bien, tout simplement, je pourrais m'arrêter là. Dieu vous aime. Et Dieu attend beaucoup de vous. Plus que ce que vous pensez. Et c'est comme si je sentais comme un esprit de découragement qui avait voulu venir sur l'Église, venir sur certains d'entre vous. Et cela a été confirmé. Hier, Christine m'a téléphoné, elle était en prière pour préparer la louange de ce matin. Et Dieu lui avait parlé aussi, vraiment que nous devions vraiment confesser la victoire du Seigneur sur notre vie. Et toutes les paroles de ce matin viennent nous parler, nous disent « Fortifie-toi et prends courage !» Alléluia! Et il est important, chère Église, que tu ne baisses pas les bras, parce que le Seigneur t'attend comme un héros. Et le Seigneur veut faire de vous ses héros, et vous êtes déjà des héros pour lui. Des héros dans notre société, des héros peut-être dans votre entourage. Et ça, c'est formidable. Et moi, je peux pas parler à des héros comme à n'importe qui. Et c'est pour ça que je vous parle ce matin avec beaucoup de respect, avec beaucoup de fierté. Parce que si le Seigneur m'a dit que vous étiez des héros, c'est parce que Dieu est en train de faire de vous vraiment un peuple formidable. Alléluia. Et je crois que tu peux féliciter le héros qui est à côté de toi. Vraiment, là je pense, sans dormir, sans être vraiment allé chaleureusement, dis-lui vraiment que vraiment agis comme le Seigneur te demande d'être. Alléluia. Alors cela, je peux vous dire, vraiment, cette semaine m'a laissé interdit. Et dans mon intercession, cela a changé ma manière de voir certaines choses. Ma manière de prier pour vous, cela m'a ému infiniment. Et vraiment, j'ai voulu aujourd'hui vous parler de quelque chose qui va vous permettre d'être ces héros que le Seigneur veut que vous soyez. Amen. Oh là, vous dormez, mon église, là ? Je sais qu'il y a un culte aussi l'après-midi, alors eux, ils auront encore moins de chances que vous d'être endormis. Hein. Réjouissons-nous, chère Église. Nous sommes dans un pays où on a du mal à se réjouir. Dans un pays où il faut toujours voir ce qui ne va pas. Où même les chrétiens sont dans la dépression. Où au lieu d'apprendre à se renouveler, vous avez des bombes. Vous avez des méthodes qui fonctionnent. C'est comme des gens qui veulent apprendre à courir, et puis après ils se plaignent, ils vont chez le médecin. Oh ben je suis tout mou, j'arrive pas à courir. Mais le médecin dit, est-ce que vous avez couru? Ben non, je cours pas. Je veux courir, mais je vais jamais courir. Ça fait 10 ans que je veux courir. Je voudrais être un athlète, mais je reste là et je mange des chips et de la mayonnaise toute la journée. Est-ce que tu crois que ça va aller? Tu peux avoir toute la dépression que tu veux. Il faut courir! Et nous avons en nous une puissance, quelque chose de formidable. Et le problème, c'est que bien souvent, nous regardons ce qui va pas plutôt que ce qui va. Et le Seigneur m'a parlé vraiment. Et cette nuit, alors que je préparais le message très tôt ce matin, eh bien, j'avais vraiment pensé, réfléchi toute la semaine. Et vraiment, ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler. Je vais vous parler maintenant. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Daniel au chapitre 6. Qui ici n'a pas de Bible? Qu'on puisse vous en offrir une. J'aimerais aussi dire aux personnes qui viennent à l'église, etc. Si vous n'avez pas rempli une fiche de contact, s'il vous plaît, faites-le pour qu'on puisse vous rappeler, pour qu'on puisse peut-être vous voir, que vous puissiez voir un pasteur, qu'on puisse vous bénir, vous connaître et prier pour vous. La Bible nous dit, Darius, le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Daniel au chapitre 6. Et Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'Empire. Vous l'avez ? Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Et bientôt, il se révéla le plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Dites avec moi, il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle. Dites avec moi, il était de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Ces hommes conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, ce pourri de chrétien, hein, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez l'empereur et lui parlèrent ainsi. Que l'empereur Darius vive éternellement. Tous les ministres de l'Empire, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière en quelque lieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes, dites avec moi, étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Dites avec moi, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. C'est pas écrit sous un paravent caché, non. Comme auparavant. Alors j'ai perdu mon verset. 12, verset 12. Alors, ces hommes firent irruption chez lui. Alors, c'est vous dire qu'ils étaient là en train d'être planqués derrière pour regarder le moindre... Et le surprit en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez l'empereur pour lui parler de l'interdiction imparale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction » dirent-ils. Ou ils l'ont peut-être pas dit sur ce temps-là. « Stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours de prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans la fosse au lion. » Il en est bien ainsi, répondit l'empereur, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, quand on dit la loi des Mèdes et des Perses, c'est que c'est très immuable. On ne peut pas le changer ni la révoquer. Eh bien, reprirent-ils, Daniel, l'un des déportés de Juda, ils n'ont pas dit le premier ministre, ils n'ont pas dit le meilleur d'entre nous, ils ont parlé d'un ton méprisant. Ne t'a pas obéi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. Trois fois par jour, il désobéit en faisant sa prière. Lorsque l'empereur entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se précipitèrent chez l'empereur et lui dirent « Sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et que tout décret promulgué par l'empereur soit irrévocable. » Je peux vous dire que là, le roi était pris à sa propre au piège que lui avaient tendu ses conseillers. Alors l'empereur ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » Dites avec moi, « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa un sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, l'empereur entra dans son palais et il refusa tout divertissement, mais il ne parvint pas à s'endormir. Dès le point du jour, l'empereur se leva, se rendit en toute hâte à la fosse des lions. Et comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit à l'empereur, « Ô majesté, vise éternellement !» Lui, il le pensait. « Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. » Alors l'empereur éprouva une grande joie. Il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Et Daniel fut donc remonté de la fosse, et on ne trouvera sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Dites avec moi, on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, l'empereur ordonna de lui amener ces hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse au lion, avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Alors l'empereur Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations et aux gens de toute langue qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on ne tremble de crainte que devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté ne prendra jamais fin. il délivre et il sauve, il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel à la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire Cyrus le Perse. Alléluia. On peut applaudir la parole de Dieu. Amen. Plus fort, on applaudit la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, nous voyons ici que Daniel, par sa piété, sa constance et sa décision en faveur des principes de Dieu, est menacé à mort. Franchement, je vous pose une question. Pour nombre d'entre nous, risquer sa vie pour un culte personnel, c'est probablement un peu excessif, n'est-ce pas? Nous, on risque pas grand-chose pour un culte personnel. Alors, ça dépend comment vous lisez l'histoire. Soit vous pouvez vous dire, ah, il a risqué sa vie à cause de son culte personnel. Ou alors, vous pouvez vous dire, une autre manière de lire cette histoire, n'a-t-il pas réussi sa vie plutôt grâce à son culte personnel? Oui, mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. On va voir que Dieu va le justifier à la fin, mais en attendant, il a dû passer par des choses vraiment graves. Et est-ce que tu crois que le diable, avec ses satrapes de démons, ne va pas prévoir dans ta vie aussi des pièges pour que tu n'adores surtout pas le Dieu de tes pères et que tu adores le Dieu de ce siècle qui s'appelle Darius, Cyrus ou Mammon, ou ton activité, ou ton agenda, ou tes enfants, ou ton mari? Mais que tu fasses tout et que tu ne sois pas dans une discipline. Et vraiment, pour moi, Daniel, c'est un héros. Combien de fois on a vu des choses extraordinaires dans la vie de Daniel? Il en avait déjà passé des épreuves à cause de sa foi. Et Daniel, même s'il et il respecte, et d'ailleurs il va le dire quand il va se faire libérer, il va dire, « Ô roi, je te respecte !» Comme je respecte mon Dieu, mais je respecte mon Dieu avant toi, c'est normal. Si je ne respectais pas mon Dieu, je ne pourrais pas te respecter en réalité. Et s'il respecte infiniment son employeur païen, il ne transigera pas sur ses valeurs, sur sa discipline. Et combien sont prêts au prix de leur travail, au prix de leur avenir, au prix d'un futur conjoint, au prix d'une tranquillité, au prix d'une réputation, soi-disant à sauver, à risquer leur vie et à mettre en pratique la parole de Dieu et à représenter leur Dieu dans leur entourage. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin. Si le Seigneur m'a dit que vous étiez des héros, alors moi je suis vraiment heureux. Je suis profondément respectueux. Et je me suis posé la question, c'est quoi un héros ? Est-ce que pour nous, le héros, c'est celui qui est là, qui est balèze et qui vient et qui est capable de te prendre comme ça et de te lever d'une seule main? Le héros, c'est celui qui... Ce n'est pas cela. Notre société cherche des héros partout. Comme on n'en trouve plus, on fait des Star Academy, des à la recherche du nouvel héros, je ne sais pas comment c'est, les... ou de la nouvelle star. Et qu'est-ce qu'on apprend à ces gens? On peut en rigoler un peu, mais qu'est-ce qu'on apprend? On prend des gens communs, et ce matin, en réfléchissant, je dis, c'est quand même pas idiot. Comme on trouve plus vraiment des héros qui nous satisfassent, eh bien, on prend des gens, et qu'est-ce qu'on leur apprend à faire? On leur apprend à faire des choses correctement. Des gens qui chantaient, c'était pas mal. Eh bien, on va leur apprendre. On va mettre un professeur autour d'eux. On va mettre un professeur de théâtre. On va leur apprendre à respirer. Et nuit et jour, on va leur prendre la tête pour qu'ils deviennent bons, pour qu'ils deviennent excellents. Et pour qu'ils fassent les choses comme ils doivent être faites. Et un jour, on met sur eux les projecteurs des médias et alors ils deviennent des héros. Certains diront, oui, c'est des héros fabriqués, mais ils sont quand même des héros, puis ils réussissent mieux. Quand ils vont à la banque, ils n'ont pas de problème, eux. Et souvent, on pense qu'un héros est une personne exceptionnelle. Et je crois qu'on a tort. Je pense tout simplement qu'un héros, c'est quelqu'un qui fait la bonne chose au bon moment envers la bonne personne. C'est ça, héros. Vous avez entendu qu'il y a 2 jours, il y a eu à la rue de Provence, à Paris, un incendie dramatique où 21 personnes sont décédées, dans l'incendie d'un hôtel, vous savez, où on parque les immigrés parce qu'on ne veut pas en prendre soin correctement ou qu'on ne peut pas le faire. Et beaucoup de familles ont perdu un de leurs proches. Et hier, j'étais avec quelqu'un qui travaille, j'ai discuté avec un des directeurs de l'organisation des Galeries Lafayette, et il me disait que les Galeries Lafayette ont un service de pompiers à demeure, parce qu'ils ont 60 000 mètres carrés, il n'y a que des vêtements, etc. Donc ils ont une brigade de pompiers rien que pour financer par eux. Et il m'a donné l'histoire hier, que ces pompiers-là, le chef, je ne sais plus comment il s'appelle, a appelé tous ces pompiers tout de suite, ils sont allés, et je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à sauver 7 personnes. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas sauvé les 21 personnes, mais les 5 minutes, la brigade des pompiers normaux était à 5 minutes, le temps qu'ils viennent, l'hôtel était déjà tout brûlé, parce que tout était en bois, etc. Le drame. Pour ces 7 personnes, qui est son héros ? Ce pompier qui aurait pu dire « Ah ben non, moi je suis employé par les Galeries Lafayette. Je dois être là, s'il y a un feu aussi chez moi, il faut que je m'en occupe, donc je ne peux pas y aller. » C'est ça ? Est-ce qu'il a dit « Ah ben c'est pas ma juridiction, je ne dois pas y aller, attention, je risque de me faire disputer ou virer par mon patron. Et si mon patron n'apprécie pas, et si on a un problème, et qu'il y a un de mes hommes qui meurt dans le sauvetage des incendies, alors qu'il n'est pas appelé pour être de cette brigade-là, qu'est-ce qui va m'arriver ? On va me taper sur les doigts, je vais perdre mon avenir. » Est-ce qu'il aurait pu légitimement dire ces choses-là ? Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il a appelé. Il a sonné les alarmes, il a dit « c'est juste à côté, mais on va aller les sauver !» Et il a sauvé 7 personnes ! Que Dieu bénisse cet homme ! Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été plus exceptionnel que d'habitude ? Il s'est formaté meilleur que d'habitude ? Non, il a fait ce qu'il fallait faire au bon moment et il a été avec les bonnes personnes. Je vous ai déjà pris cet exemple, vous êtes en train de vous balader, vous êtes en train de promener votre chien. Hé, Médor ! Au pied, Médor. Allez, tu prends un truc, tu envoies un truc. Il dit, ah, c'est bien, Médor, c'est bien, mon toutou. Allez, continue, allez, vas-y. Une petite lichette, allez, vas-y, allez, lance. Et le chien. Allez, Médor. Viens ici, fous le camp. Mais voilà, hein, d'accord. Et alors, vous êtes là, tout tranquillement, et puis même, soudainement, il vous prend envie de faire pipi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous regardez bien à droite, à gauche, devant, derrière. Et puis Médor arrive, et il dit « Ah ben c'est bien, et il fait pareil que son maître. » Et puis voilà, vous êtes en train de vous balader. Est-ce que vous avez l'air d'un héros ? Non. Vous êtes tout ce qu'il y a de plus banal. Le petit dimanchard qui fait sa petite promenade, n'est-ce pas ? Qui contribue à l'écosystème, etc. Bon. Et soudainement, vous entendez « Ah ! Au secours ! Au secours ! » Et vous regardez sur le lac que vous admiriez juste avant, vous voyez une main qui est comme ça « Au secours ! Au secours ! » Et il y a une personne qui est en train de se noyer, qui est en train de... Qu'est-ce que vous faites ? Oh, la pauvre ! Oh, j'aimerais pas, il doit faire froid en ce moment. Hein. Elle est à combien, l'eau ? « Ah non, mais si je me fais une broncholite ?» Si, et puis, moi, ça fait longtemps que j'ai pas nagé, j'ai pas pris mon maillot de bain. Et puis, je suis pas maître nageur, hein. Quand je nage, ça fait... Et on va se noyer tous les deux. Tu pourrais dire tout à fait cela. C'est quoi le héros ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tomber. Il saute et il y va. Ou si tu sais pas, je... Et puis il arrive, il dit, attends, j'arrive. Et puis il essaie de la lever. Et il essaie de la ramener. Et puis après, si elle est à moitié mal, il fait un peu de bouche à bouche. C'est le côté agréable de l'affaire. Enfin, ça dépend, hein. Si elle venait d'aller chez le chirurgien Patrick Nouet et qu'elle avait des fils partout, là, c'était pas pareil, hein. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette personne-là, à un moment donné, elle va dire merci. Vous m'avez sauvé la vie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez quelqu'un de spécial? Non? Vous alliez vous balader, vous pissiez comme les autres? Et pourtant, à un moment donné, eh bien, pour une personne, vous avez été son héros. Pourquoi? Parce que vous avez fait la bonne chose au bon moment et envers la bonne personne. Amen. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut vous dire. On ne devient pas un héros en voulant être un héros. Je vais être un héros, je vais être un héros, je vais être un héros, je vais être un héros. Mais on devient un héros, pourquoi? Parce qu'on se discipline. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner, vous parler d'un thème que les Français aiment. L'autodiscipline. Oh, Rabashi Karai, comme on aime notre pasteur. L'autodiscipline. On ne devient pas un héros en voulant être un héros, mais parce qu'on s'applique une discipline de vie et parce qu'on vit par une conviction qui va nous servir à un moment opportun. Et dans notre société difficile, c'est de plus en plus, on est entouré de sarpâtres là, je ne sais pas comment ils les appellent, qui font tout pour que nous n'adorions pas notre Dieu. Le problème de la laïcité qui est venu, où soi-disant la laïcité, devait interdire la foi. Vous savez-vous que les baptistes sont ceux qui se sont battus en 1905 pour l'état laïque, les protestants? Parce que nous considérons que ce qui est séculier est séculier, ce qui est de l'Église doit être de l'Église, du comment on dit ça, excusez-moi, le spirituel. Je sais qu'on a une influence, mais alors on a essayé, le monde a essayé de tout faire, dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous nous servez mais vous n'adorez pas Dieu, et nous devons refuser ces choses-là. Ils nous ont dit, eh bien, on reprend le jour du Saint-Esprit. Moi, j'ai dit à mes chrétiens, si vous êtes attachés au jour du Saint-Esprit, prenez une journée de congé. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont demandé, même dans la fonction publique, et qui l'ont obtenu. Ma femme l'a obtenu. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Il est important de savoir qui vous êtes, de savoir quelles sont vos valeurs, et d'investir dans ces valeurs, d'y croire. Faut pas y croire à moitié. Faut pas te convertir à moitié. Edmond Burke disait, la victoire des méchants, c'est quand les bons ne font rien. On peut dire, le monde est difficile. Dans quel monde vivons-nous? Nos ancêtres disaient déjà ça à leurs petits-enfants. Toutes les générations disent cela. Le problème, il n'est pas là. Moi, je m'en fous que le monde soit difficile. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je vais faire dans mon monde pour toucher ma génération. Qu'est-ce que je vais pouvoir amener à Dieu en disant, Seigneur, il y a une opportunité. Beaucoup de gens m'ont dit, mais tu es fou de passer à la télévision sur TF1. Tu es fou de faire un reportage sur la délivrance, ils vont te massacrer. Tous les sorciers vont se liguer contre toi, je sais. Tu vas perdre beaucoup de gens. Là, j'avais une invitation pour faire un culte inter-église. Depuis qu'ils m'ont vu sur TF1, il paraît que certains veulent plus m'inviter. D'autres, au contraire, sont très contents. On en reçoit plein d'emails en disant « C'est formidable, allez-y, enfin, il faut montrer la puissance de Dieu. » Alors, bien sûr, il y a un danger. Mais quoi, qu'est-ce que j'allais dire à mes concitoyens? Ah, surtout, je vous dis pas que c'est dangereux d'aller voir Madame Irma. Combien de personnes ont souffert dans l'occultisme? Et moi, je ne vais pas dire que Jésus sauve, que Jésus libère. Qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel? Rien. Ils sont venus, c'est un collègue pasteur qui m'a filé le bébé. Ils ont dit, vous connaissez quelqu'un qui connaît au niveau de la délivrance, est-ce qu'on peut vous filmer? Il a dit, allez voir De Coster. Il a dit, gentil. Alors ils sont venus, il paraît que c'est vous qu'on doit voir en France. Je dis, mais vous non, vous pouvez aller voir tous les pasteurs. Ah non, mais on veut venir ici. Et qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel? C'est eux qui sont venus. Et Dieu m'a simplement dit, alors tu vas pas. Ah, il y a les lions qui t'attendent. Il y a les RG qui sont là derrière. Probablement, tu auras des problèmes avec de l'occultisme. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, mes amis, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Alors maintenant, des personnes disent, le pasteur Freddy, il a prêché à 10 millions de personnes. C'est un héros. Personne n'a pu faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, le matin, j'ai pris ma douche. Je suis allé aux toilettes à la même heure en me levant. Demandez à ma femme mon petit rituel, elle va vous expliquer. Et pour elle, j'étais pas un héros, ma fille, elle m'a vu,
Ça fait ah, elle m'a craché quand même dessus comme tous les matins.
Mais le seul, la seule chose, c'est que à un moment donné, ben il faut savoir simplement faire ce que Dieu nous demande. Et même si notre société nous paraît difficile à vivre, et si le témoignage n'est pas facile à rendre à notre Dieu, il nous importe d'être fiers de qui nous sommes et d'être disposés à donner de ce que nous sommes et de ce que nous savons au service du témoignage de l'Évangile. Alors mon deuxième point, c'est, je voudrais vous parler de la force de l'autodiscipline. Daniel n'est pas devenu un héros qui a amené le réveil de son pays et des nations. Vous voyez, à la fin, c'est écrit que le roi a fait un décret dans toutes les nations que désormais on devait adorer le Dieu de Daniel. Alors là, qui est-ce qui a déjà ramené un réveil comme ça dans le monde païen? C'était facile peut-être à l'époque. Quand la Bible dit que le roi n'accepta point de divertissement, vous croyez que c'était quoi ces divertissements? C'était sanctifié. Eh bien, mes amis, s'il est devenu un héros, ce n'est pas parce qu'il était meilleur qu'un autre, mais c'est parce qu'il était convaincu et discipliné. Il était convaincu qu'il devait s'approcher de son Dieu tous les jours, que la Bible donnait un rituel, une routine à suivre tous les jours pour construire l'homme intérieur. Et lui, il a dit, si c'est Dieu qui m'a élevé jusqu'à ce poste, comment est-ce que je vais le renier au moment où j'ai peut-être une position à défendre? C'est l'Éternel qui me défendra. Il avait pris la bonne habitude de prier tous les jours pour chercher Dieu. Et personne ne l'en empêcherait. Personne. Il avait pris cette décision. Remarquez que beaucoup de ses co-religionnaires n'ont pas fait autant que lui. Et Daniel, c'est tout ce qu'il a fait. Pendant ce jour-là, il n'a rien fait d'exceptionnel. Comme tous les matins, comme tous les midis et comme tous les soirs, il allait adorer son Dieu. La différence, c'est que là, lui, il a été quand même un peu courageux. Et puis, il s'est dit, ah bon, puisque j'ai pas le droit, ben non seulement je vais le faire, mais je vais ouvrir la porte pour qu'il m'entende. Et quand vous regardez, il était en face. Bon, je devrais plutôt ouvrir la vase, c'est plus beau, hein, d'accord? Mais, eh bien, il ouvre la porte et il commence à louer le Seigneur. Et la Bible dit qu'il invoquait son Dieu. Et quand on invoque son Dieu, c'est pas petit. Seigneur, je t'invoque, mon Dieu. Au jour de la détresse, tu m'as libéré. Et il a pris cette habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres qui étaient là juste derrière et qui attendaient le moindre truc pour le faire, d'ailleurs, ils lui avaient tendu le piège. Eh bien, ils sont venus, la Bible dit qu'ils l'ont assailli. Et Daniel savait très bien ce qu'il risquait. Ça a failli lui coûter son poste. Ça a failli lui coûter sa réputation. Et même sa vie. Puisqu'il savait bien que c'était un complot. Mais lui, il a dit, je ne transigerai pas. Les autres ont menti en disant, il ne respecte pas la société dans laquelle il est. Et lui a dit, mon roi, je vous respecte plus que tout, mais pas plus que Dieu. Et plus que ça a failli lui coûter la vie, quand ils l'ont chopé, ils n'ont pas dit, petit Daniel, premier ministre, tu viens, ils l'ont chopé. Mais alors, violemment, ils l'ont balancé dans la fosse aux lions. Mes amis, Daniel s'est fait des ennemis dans son travail parce qu'il avait décidé de faire son job parfaitement. Il avait décidé d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Peut-être vous aussi, vous vivez la même expérience. Et lorsque vous allez exceller dans votre travail, lorsque vous allez exceller dans votre famille, vous trouverez des collègues pour vous tirer dans les pattes, pour vous faire tomber ou pour vous menacer. Vous en trouverez. Et moi, j'aimerais vous dire, conduisez votre vie pour être sans reproche. Mais parfois, ça ne suffira pas. Parce que ici, les conseillers disaient, on ne peut rien lui reprocher. Si on essaie de le choper du côté de son travail, de sa réputation, on ne trouvera rien. Donc, il faut qu'on le prenne au niveau de son témoignage chrétien. Si on arrive à le faire dévier un tout petit peu, alors là, bam, on l'aura. Et le diable sait que c'est la même chose. S'il ne peut pas te reprocher dans ton excellence, s'il ne peut pas te reprocher dans ce que tu fais, il va essayer dans les choses où tu devrais être engagé. Conduisez votre vie pour être sans reproche, quoi que cela vous coûte. Un jour, mon frère Benjamin m'a raconté une histoire dans son travail. Ça m'a beaucoup affecté. Quand il avait pris un autre travail, avant celui qu'il a maintenant, il est arrivé dans la boîte le même jour les syndiqués, ils l'ont chopé. Ils lui ont dit, je te préviens, si t'en fais plus que nous, on te casse la gueule, on te dénonce, on te vilipende. Ici, on fait 5 visites par jour, pas plus. Et tu fais comme tout le monde, sinon tu dégages. Quand il m'a dit ça, je dis, Benjamin, tu devrais en faire 10. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, vous lui demanderez. Combien de fois on peut avoir peur parce qu'à la fin du mois, on n'a rien à donner à manger aux enfants? Et alors nous, on devrait accepter parce que les syndicats disent on fait 5 visites par jour, alors que tu as largement le temps d'en faire le double. Toi, tu vas faire ça parce que tu veux être comme tout le monde et pas risquer ta vie et tu veux pas servir ton patron. Ah, parce qu'il faut bouffer du patron en France. Combien de fois une pression comme cela peut venir à bout de notre conviction chrétienne? Combien de chrétiens, de gens se sont convertis à Jésus? Ils étaient au chômage, j'en connais plein. C'est systématique. On prie pour eux, ils trouvent un travail. Et en même temps, ils trouvent deux travaux toujours. Il y a toujours un, le diable se dépêche de leur donner un travail, mais ils doivent travailler le dimanche. Il y en a plein qui travaillent le dimanche, ils tombent en moins de deux. Qui va oser dire non? Maintenant, il y a deux cultes, vous avez encore moins d'excuses. Soit vous me donnez le matin, soit vous me donnez le soir. Mais moi, c'est le jour du Seigneur, j'irai adorer au temple, mon Dieu. Parce que c'est ce que la Bible dit dans les commandements. Tu sanctifieras le jour du sabbat. Tu le mettras à part pour moi, dit le Seigneur. Et moi, je l'ai vécu. Quand je me suis converti, eh bien moi, j'étais commercial dans une grande société. Et ça marchait bien. Et quand j'ai commencé à me convertir, j'ai dit bien à mon patron, mais écoutez, non seulement je prendrai mon dimanche, mais en plus je prendrai mon samedi et mon vendredi parce que je vais servir l'église. Il y a des travaux à faire, il y a des choses à faire. Il m'a dit, mais t'es fou. Dans ton travail, et on avait les statistiques, c'est le week-end qu'on travaille le plus. C'est là où on vendait le plus parce que les gens étaient chez eux à la maison. Et je lui dis, c'est comme ça ou vous me lâchez? Alors comme il m'aimait bien puis que je ramenais du fric, il m'a pas lâché, il m'a dit, bon, faites ce que vous voulez. Mais il était dubitatif. Et je me souviens que Dieu m'a tellement béni. Ce mois-là, j'ai explosé la baraque. Je faisais une visite sur trois, je faisais une grosse vente, les autres faisaient une visite sur 10. Au début du mois suivant, on a eu une réunion le lundi avec tous les commerciaux, etc. Ils se sont fait passer un savon mémorable. Mais vous devez être une bande de sacrés feignants, parce que si De Coster il travaille la moitié du temps et il fait deux fois plus de votre chiffre, c'est que vous êtes des sacrés feignants. On va remettre en cause les voitures de fonction. Tout le monde me regarde comme ça. Et moi, je me dis, j'ai rien fait. La seule chose que je fais, c'est que moi, le week-end, je sers mon Dieu. Et je vous dis pas ça parce que je l'ai vécu, je l'ai fait. Ah, parfois, Dieu m'a testé. Bon, ça a été un peu moins facile, mais Dieu avait vraiment béni parce que je ne transige pas sur les choses que Dieu m'a données. C'était pas facile parfois. Mais mes amis, bien sûr, parfois, avoir un bon témoignage, ça ne vous, et tout le temps, souvent, ça ne vous sauvera pas des attaques en règle de l'ennemi. Ne croyez pas que parce que vous allez être chrétien, vous n'aurez plus d'attaques. Mais il y a une chose, c'est que votre obéissance va libérer la protection de Dieu pour vous. Parce que là, bien sûr, il les a vus de près, les lions. Hein. Lui, il en avait en peluche, les lions. À la maison, il avait peut-être un grand lion en peluche. Il dit, ah, alors, ça va? Mais quand tu l'envoies de ta... Là, ça fait un gros chat quand même. Hein. Je préfère les petits chats. Hein. Mais quand t'as un gros chat qui arrive comme ça devant toi, là, tu peux commencer à flipper. Et parfois, nous avons des menaces. Mais regardez dans la fin du texte, finalement, comme ces officiels, eh bien, ceux qui vous veulent du mal finiront par être croqués par les lions. Et souvenez-vous qu'il y a toujours un retour de feu. Il y a toujours un retour de flamme. Si on vous lance des flammes, mais que vous ne vous défendez pas, vous laissez Dieu vous défendre, eh bien, je peux vous dire que ceux qui vous lancent des malédictions, ceux qui vous lancent du mal, ceux qui vous lancent des combats, ceux qui vous lancent du mépris, ça se retournera contre eux. Parce qu'ils vont l'avoir, le patron, pendant une fois ou deux. Ils vont l'avoir peut-être deux ou trois fois. Et puis, vous allez peut-être être viré parce que vous avez accepté, vous allez peut-être pas avoir un poste, mais Dieu va vous libérer un autre poste. Et puis, justement, Dieu va permettre que cette entreprise, elle réalise que vous êtes devenu le pire concurrent. Elle va dire, oh là 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 là, si je l'avais embauché celui-là, il ferait ça pour moi, parce que Dieu est ta justice. Alors soyez ferme dans votre foi. N'ayez pas peur de vos collègues. De toute façon, s'ils vous en veulent parce que vous êtes chrétien, c'est ça le problème, ils vous chercheront d'autres noises. Et ils trouveront d'autres moyens de vous faire du mal. Et il est important d'être ferme et d'être discipliné dans vos valeurs. Réjouissez-vous, comme disait Pierre, des légères afflictions qui peuvent parfois orner votre vie et du temps présent, parce qu'ils produisent en vous une couronne de gloire et une couronne d'obéissance. Et ici, nous voyons un Daniel qui a eu très peur, à mon avis, mais il ne s'est pas défendu et il a compté sur Dieu et sur sa fidélité. Et notre Dieu combattra pour nous. Amen. Il y a quelqu'un qui disait dans le coin, au tout début, « Ah, mais si Dieu était avec De Coster, il lui donnerait un bâtiment. » Nous regardons là un bâtiment, nous. Et moi, je disais rien. C'était pas facile, je l'ai pas eu tout de suite. On a été tellement vilipendé au départ. Et puis au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a largement bénis. Il va nous bénir encore. Et puis ces personnes-là, non seulement ils ont perdu leur église, elle est fermée. Ils ont perdu les bâtiments, mais le nouveau qu'ils ont acheté, il y a des problèmes et maintenant ils sont en procès. Et ils ont perdu toute leur épargne de 25 ans de vie. Faites confiance en Dieu. Le manque de résolution dans une vie en Christ commence toujours par une hésitation à appliquer les principes spirituels de la Bible et les principes spirituels de l'autodiscipline dans nos vies. Et combien d'entre nous, nous avons du mal à nous autodiscipliner, à chercher Dieu chaque jour, à appliquer les principes de notre foi. Mes amis, sachez une chose, comme du temps de Daniel, les principes de ce monde et les principes bibliques, les standards de vie de ce monde et nos standards de vie ne font pas bon ménage. Et ce n'est pas les compromissions qui vont vous rendre heureux. Soit vous êtes totalement chrétien, soit vous ne l'êtes pas du tout. Allez vous éclater dans le monde. Vous vous éclaterez mal, mais éclatez-vous quand même. Mais sachez que pour toute chose, vous aurez un jugement parce que vos choix, vos actions vont ramener des conséquences. Et donc, il est donc admis et logique que celui qui décide de vivre bibliquement aujourd'hui sera inévitablement assailli par des difficultés, par des confrontations avec ceux qui n'appliquent pas l'Évangile ou qui rejettent ses mandats. Et même dans l'Église, les gens qui vivent dans le compromis dans l'Église vous persécuteront. Si toi, tu vis dans la droiture, tu dis « Non, moi, je couche plus avant le mariage » et que eux, ils ont envie de continuer, ils diront « Ouais, t'es religieux ». Moi, je t'invite plus. Tu auras des difficultés. Mais c'est pourquoi, si quelqu'un veut démontrer une vraie humanité, une vraie droiture, il doit apprendre à se discipliner dans ses pensées et dans ses actes pour pouvoir tenir ferme dans ses engagements avec Dieu. Or, dans notre société, il est parfois difficile de trouver des gens qui s'engagent et qui tiennent bon. Je vous le dis. C'est pas facile. Et pourtant, cependant, si un homme est fidèle avec Dieu, s'il applique la parole de Dieu et pratique une relation fidèle avec lui, il va expérimenter que Dieu lui-même pourvoira à des forces nécessaires par son Saint-Esprit pour le faire avancer victorieusement dans une vie pleine de sens et pleine de victoire. Et Dieu va se charger lui-même. Nous, nous sommes responsables de notre attitude. Lui, Dieu, il est responsable de nous défendre et de nous justifier si ces principes sont vrais. Alors toi, il faut que tu te concentres sur l'attitude que tu dois avoir en tant que chrétien. Et même si tu es un jeune chrétien, applique-le tout de suite. Si tu vois un plus vieux chrétien qui applique qu'à moitié l'Évangile, laisse-le faire. Ne le juge pas, mais ne crois pas que tu devras un jour devenir comme lui. Et moi, je vous dis, il est plus que certain que Dieu récompensera les efforts courageux de ceux qui vivent selon ses voies, en pourvoyant à des ressources inespérées par son Saint-Esprit et à des dons invraisemblables, pour que dans le temps, au moment où il a besoin de vous, vous puissiez obtenir la victoire. Alléluia. Amen. Et la Bible le dit dans Hébreux 11, verset 8. On va prendre ce texte où la Bible nous parle de la foi de Abraham. « La Bible nous dit, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Alors là, nous avons vraiment une explication de ce qu'est la foi. La foi, c'est vraiment parfois partir sans savoir où on va. Hein. Quand tu obéis à Dieu, quand tu fais ce que Dieu te dit, Dieu te dit pas ou fais ci ou fais ça, il te dit pas pourquoi. Et ça, c'est embêtant. Donc, nous, on aime bien avoir les devis, savoir exactement où ça nous mène. On aime bien prévoir notre avenir. Il y a une parole de Dieu qui est dit ce matin sur quelqu'un qui recherche sa retraite, qu'il avait raison, mais il s'inquiète tellement, tellement qu'il en oublie Dieu. Alors, Dieu lui dit, mais de toute façon, tes plans peuvent être bouleversés. Fais attention. La semaine dernière, Michel, Alexandre et peut-être d'autres qui connaissaient, nous avons perdu un ami à 63 ans, cancer fulgurant. En combien? 2 mois il est parti, Michel. En 2 mois. On lui avait parlé de Dieu, il n'a jamais rien voulu savoir jusqu'au bout. Et cet homme avait épargné toute sa vie, il avait une grande richesse. Il disait, j'en profiterai demain, n'est-ce pas? Il fait tous les plans de sa vie, mais là je n'ai jamais voulu appliquer. Qu'est-ce que tu sais ce qui t'arrivera demain? Et ta petite compromission pour essayer de ne pas te faire mal voir par les collègues, de ne pas essayer de te faire pour essayer d'avoir à la fin du mois ce que tu penses que humainement t'arrivera à avoir. Vous croyez que Daniel était plus riche ou moins riche avant d'avoir obéi à Dieu, avant cette expérience? Vous ne croyez pas que le roi qui était tellement dans la douleur de perdre un de ses meilleurs, même son meilleur élément, ne l'a pas récompensé? Non seulement il l'a récompensé en honorant ce qu'il croyait et en obligeant les autres à respecter et à vivre ce qu'il croyait. Il a été celui qui a ouvert la porte pour le réveil, mais en plus il l'a couvert d'honneur et il lui a permis d'avoir la voie libre pour diriger le royaume. L'obéissance. Et lorsque vous êtes sous pression, n'essayez pas de vous en sortir par vous-même en employant les méthodes du monde, c'est toujours une erreur. Combien de femmes ou d'hommes se sont convertis? Peut-être ils vivaient avec un conjoint, ou peut-être pas, et puis ils avaient une solitude. Alors ils ont rencontré un homme, une femme, et puis ils ont précipité les choses. Ils n'ont pas osé faire les choses comme il fallait avec une préparation au mariage en disant non, maintenant on obéira à Dieu, etc. Et souvent ils me disent non, mais pasteur, je l'amènerai à Dieu. Oui, c'est ça mon œil. Ça marche jamais. Alors qu'à chaque fois que j'ai vu une femme, une jeune fille être ferme, bientôt nous allons avoir un couple qui va venir à l'école biblique. Elle s'appelle Sandra, elle était top modèle international. Son mari, architecte d'intérieur. Il avait des portes ouvertes pour les plus grands cabinets d'architectes à New York. Et quand elle a découvert Jésus, elle est arrivée voir son copain et elle lui a dit, c'est fini les galipettes, comme je vous dis toujours. Parce que je veux construire avec toi. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Lui, il a dit, bah, mais il l'aimait tellement. Et comme il voulait pas se marier tout de suite, ils ont vécu plus d'un an dans la même maison. Il s'est rien passé. Il était là, il en pouvait plus, il voulait la virer. Puis à un moment donné, il a dit, j'en ai marre, tout ça. Puis à ce moment-là, il s'est dit, mais une femme qui a une telle conviction, c'est que ça doit être vrai. Et il a été tellement touché, il s'est converti. Alléluia, maintenant il va devenir pasteur. Maintenant ils ont 3 enfants et je suis sûr qu'ils en profitent. Hein? Et tous les gens qui ont appliqué la parole de Dieu, Dieu les a toujours récompensés. Mais le compromis t'amène dans la détresse. Tu peux perdre l'onction, tu étais en train de travailler pour Dieu parce que tu vis dans le compromis. Eh bien tu vas être dans la détresse, tu vas perdre les choses les plus précieuses, même le Saint-Esprit que tu vas attrister. C'est Dieu qui va le vestoyer dans la droiture. Et la discipline personnelle, c'est celle qui produit la victoire et qui fait des héros. Et elle ne peut se vivre que si l'on décide de se soumettre complètement à la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, si on arrête de boire, c'est difficile. Mais une fois qu'on a réussi, quelle victoire! J'aimerais vous dire, on va lire encore 2 textes et je vais conclure. Dans 2 Chroniques. au verset 19 et au verset 11. 2 Chroniques 10, 19, verset 11. La Bible nous dit, pour toutes les affaires religieuses, vous avez à votre tête le grand prêtre. Attendez, j'ai dû me tromper. Non, c'est ça. Des Lévites seront à votre disposition comme des commissaires. Donc ça, c'est aussi le symbole des pasteurs. Mettez-vous donc courageusement au travail et que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. On peut relire cela. Pour toutes les affaires religieuses que vous avez à votre tête, vous avez à votre tête le grand prêtre Amaraïou. Et pour les affaires civiles et royales, c'est Zébadaïou, le fils d'Ismaël, gouverneur de la tribu de Juda. Des Lévites seront à votre disposition comme des commissaires. Mettez-vous donc courageusement au travail et que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. Dites avec moi que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. Et au chapitre 20, verset 20, la Bible dit, le lendemain matin, ils se levèrent aussitôt et les hommes se mirent en route pour le départ de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et enfants d'Israël, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Dites avec moi, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Et dans ce mot, faites confiance, dans d'autres traductions, c'est ayez la foi. Et dans la traduction en anglais, c'est le mot croire, qui en hébreu c'est aman, qui signifie tenir ferme, être stable, établir ou être fermement persuadé. Dites avec moi, être fermement persuadé. Et dans sa forme causale, aman signifie croire, considéré comme digne de vérité. D'ailleurs, de aman vient le mot amen, qui est utilisé dans Genèse 15, verset 6, lorsque la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu. Il a cru dans les principes de Dieu. Et on pourrait traduire dans ce texte où on dit trois fois « faites confiance » ou « ayez aman », ça apparaît trois fois, on pourrait le traduire « être établi dans le Seigneur ». Soyez établi. Et comme ce terme après va se dériver en « amen », en « emuna », qui veut dire la foi en hébreu, dont le dérivé le plus fameux c'est « amen », eh bien cela va convoyer l'idée qu'il en soit ainsi. C'est solidement, c'est fermement, c'est vrai, c'est la vérité, c'est sûrement parce que c'est établi dans le Seigneur. Et c'est vérifié et digne de foi. Alors ceux qui disent oui et amen au Seigneur, ceux qui disent oui et amen dans leur autodiscipline, où chaque matin, même si on leur en empêche, ils vont prier Dieu, ils se disciplinent à avoir une vraie piété, ils sont présents au moment où le Seigneur les appelle, ces gens-là seront les héros de demain. Alléluia. Et si Dieu dit que vous êtes des héros et que je dois prier pour des héros, c'est parce que vous avez déjà compris cela. Et si vous n'avez pas compris, que ce message vous aide. Soyez disciplinés. Même si les Français n'aiment pas ce terme. Ceux qui ne sont pas fermes dans leur voie se détruiront et ne feront pas long feu. Heureux celui qui tient ferme devant le Seigneur, nous dit la parole, car au jour de la détresse, il sera délivré. Celui qui se relâche dans son travail, répète la Bible à un autre endroit, dit, eh bien, est frère de celui qui se détruit. Alors nous devons apprendre à ne pas négliger notre temps de prière, ma chère Église, avec Dieu. Daniel avait une discipline dans son temps. Il avait une vie de prière chaque jour. Il avait une routine. Dites avec moi le mot « routine ». Vous savez comme le monde n'aime pas ce mot « routine » ? Si vous dites que vous avez une routine, alors là, ils vont vous prendre pour des imbéciles. On veut pas de routine dans le couple, alors on fait de l'échangisme. On veut pas de routine dans la vie, alors on fait tout ce qu'on peut pour que ça change. Mais il faut une routine. Ton corps a besoin d'une routine. Tous les jours, tu manges, c'est une routine. Tu respires sans arrêt, c'est une routine. Un enfant a besoin d'une discipline qui est une routine. Il ne faut pas une vie routinière. Mais une certaine routine amène le changement dans ta vie. Si tu es en forme physiquement parce que tu vas courir régulièrement, Au moment donné où tu dois donner un coup de collier, tu es présent, tu vas être bon, tu vas être efficace. Si tu prends soin de toi au moment où on a besoin de toi, si tu prends une routine d'apprentissage de culture générale, au moment où on va avoir besoin d'un conseil, tu sauras le donner, tu seras la personne qu'il faut. Parce que tu t'es discipliné. Il n'y a pas de grands héros sans discipline. Regardez les grands athlètes. Combien de fois on vous prend l'exemple des tennismans? Ils font des milliards de fois. Les golfeurs, ils font des milliers de fois. Ils font le même geste. Et ils font et ils fabriquent. Et au moment donné où on a besoin... Alors à ce moment-là, ils font simplement leur routine de bien faire la chose, de bien faire son geste, et à ce moment-là, ils touchent, et lui, il touche le pactole. Et toi, tu dis, oh ben non, moi, je veux pas l'entraînement, ça m'énerve, ça me fatigue. Ben après, tu seras fatigué à travailler toute ta vie pour gagner peu, pour récolter peu. Et souvent, nous subissons la contrainte des événements. C'est pas parce que nous sommes sous une menace de vie ou de mort que nous ne faisons pas notre culte personnel ou que nous n'appliquons pas les choses du Seigneur. Oh, pour beaucoup moins que ça. Un peu de pression, un peu de solitude, un peu de pression des événements, un problème à régler, de l'argent à donner à notre ancienne femme, des contraintes horaires, de la fatigue que nous ressentons. Et nous laissons ces pressions couper notre temps personnel avec Dieu. Alors priez régulièrement, peu importe comment, peu importe où, priez. C'est votre respiration spirituelle. Priez, ma chère Église. Soyez des héros. Ayez votre discipline spirituelle. Qui sait si parce qu'un jour tu donnes un bon témoignage dans ton boulot, ton patron va pas un jour venir te voir en cachette et dire, dites-moi ce qui se passe. Parce que moi, en ce moment, ma femme est en dépression, je sais plus comment faire. Tu seras le héros de cette famille qui va être sauvée. Parce que tu auras été fier. Soyez fiers du Seigneur. Soyez fiers du Seigneur. Soyez fiers de vos valeurs, chère Église. Soyez disciplinés dans votre vie personnelle, mais aussi dans vos engagements. Appliquez sans détour vos paroles, même si ça vous coûte. Mettez votre honneur à accomplir ce que vous promettez. Combien de gens disent, ah, je vais faire ci, et ils le font pas. Mettez votre honneur, parce que vous l'avez dit. Même s'il y a un changement, tu le fais. Tu mets ton honneur, ta fierté, à être qui tu es. Et ne dites jamais, oh, je ne sais pas, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Le Seigneur peut pas m'utiliser, puis je suis pas comme lui, je suis pas comme elle. Mais dites toujours, par sa grâce, selon les mesures de mes capacités, avec discipline, je vais donner mes talents et je ferai ce que je peux, et Dieu, je le crois, fera le reste. Par sa grâce, je serai fidèle. Mais cette grâce, je la rends possible par mon autodiscipline. Sachez que Dieu est responsable de l'impossible. Mais toi, tu es responsable du possible. Toi, tu es responsable d'appliquer ses principes et de te discipliner. Et lui, il est responsable de te défendre, de te relever et de te justifier. Ne galvaudez pas votre morale, votre fierté de vos valeurs pour un intérêt séculier. C'est Dieu qui élève. Amen. C'est Dieu qui élève. Ne magouillez pas pour un intérêt immédiat. Voyez plus loin. Vous avez reçu des lunettes spirituelles, des jumelles par la foi. La foi, c'est des jumelles. Voyez plus loin. Ne galvaudez pas votre moralité. Ne galvaudez pas votre vie spirituelle pour une pression séculière ou momentanée. Fortifiez-vous, ma chère Église, et ayez bon courage. Dieu m'a dit que vous êtes des héros. Mais beaucoup, vous êtes des héros qui s'ignorent. Alors faites ce que vous devez faire. Soyez droit, soyez fiers. Ayez de l'estime de soi et disciplinez-vous à faire le bien. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous allez perdre une heure en prière le matin que vous allez perdre votre business. Au contraire. Peut-être que pendant cette prière, vous allez recevoir l'idée qui vous manquait, la sagesse qui vous manquait. La sérénité qui vous manquait. Avant de faire un examen, combien de gens vont aux examens? Ils sont là, ils ont peur, ils ont peur. Est-ce que tu as prié une heure avant de partir faire ton examen? T'as ton examen à 8 heures? Lève-toi à 6 heures ce jour-là. Ah oui, mais il faut dormir. Ben, tu prends des vitamines la veille. Tu te lèves à 6 heures. Tu passes une heure dans la prière avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi j'ai travaillé toute l'année, j'ai été fidèle. Maintenant, je recommande mon sort à l'Éternel. Que cela soit pour ta gloire. Prenez des bonnes habitudes, ma chère Église. Amen. Et je crois que si nous faisons tout cela ensemble, sans esprit de division, sans moi-je, sans les gens qui se croient toujours plus forts que les autres, et puis, non, on est un corps bien coordonné, n'essaie pas d'être calife à la place du calife. It's no good. D'accord ? Sois toi-même. Et si tu dois aller promener Médor, va le promener. Mais sois disponible si Dieu a besoin de toi pour quelque chose. Le jour où tu dois donner un témoignage à quelqu'un qui est dans la souffrance, ne te tais pas, sauf si ce n'est pas le moment. Tu lui dis, puis si la personne n'accepte pas, elle n'accepte pas, mais sois fier de qui tu es. Amen. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas intimider. Car le diable utilise l'intimidation sans arrêt. Et dans notre société, il utilise l'intimidation. Vous savez, je vais vous donner juste pour terminer un témoignage des choses. Vous avez vu que notre Église est de plus en plus appréciée. Les journalistes viennent, là, il y a encore 2 semaines, on a eu une page entière dans l'éveil, où j'ai pu prêcher l'évangile dans l'éveil, à l'occasion de Pâques. C'est eux qui sont venus. Vous savez, quand tout a commencé, à un moment donné, on a eu tellement de coups, des coups bas et tout ça, que j'avais un peu peur, je me disais, bon, on va être discret, etc. Et nous, maintenant, un jour, j'ai décidé, j'ai dit aux anciens, on a prié avec les anciens, et on s'est dit, non, nous, on va affirmer nos valeurs. On va être fiers de qui on est. On va respecter le roi, mais on va être fiers de nos valeurs. Et j'ai commencé à aller voir tous les maires de la région, commencé à aller voir les journalistes. Quand on avait quelque chose, maintenant les cultes sont inscrits dans le journal, etc. Bonjour, c'est moi votre pasteur. Comment ça mon pasteur? Oui, je suis le pasteur de la région. Et puis alors, j'ai commencé à parler fièrement des valeurs de l'évangile. Eh bien, ça change tout. Ça change tout. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait des coups de fil, des demandes de conseils. Là maintenant, on est en train de négocier quelque chose. On vous en parlera pour les week-ends spéciaux. Vous savez qu'on va faire les week-ends de rencontres, là. Vous savez, de folie, là, où on va se lâcher. Tout ça, ça va être génial. Hein? Et l'autre jour, j'ai dit à ma secrétaire, appelle telle personne. Et elle a appelé, puis elle a commencé à négocier. J'ai dit, tiens, tu me la passes. Puis j'ai dit à la personne me dit, bonjour pasteur. Puis on a parlé, etc. Et puisque c'était pour le pasteur, elle a fait des prix incroyables. Si tu es fier, c'est Dieu qui va te défendre. Amen. Soyez fiers de vos valeurs. Ne transigez pas. C'est un trésor que vous avez. Il vaut beaucoup, beaucoup plus qu'un intérêt séculier. Et c'est Dieu qui vous élèvera. Et quand Dieu vous élèvera, il écartera lui-même vos ennemis. Quand Dieu vous donnera un poste que vous n'auriez jamais rêvé, c'est lui qui vous bénira. Mettez votre confiance en Dieu. Amen, ma chère Église. Et arrêtez de vous décourager. Ce n'est pas les épreuves qui doivent nous décourager. Nous devons rester fermes en Christ. Si Dieu l'a dit, ça nous suffit. Amen. Et si vous développez cette maturité, vous serez fort. Et pour vous, vous allez même vous rire des événements. Vous vous rirez des événements. Il n'y a pas que la vache qui rit. Il y a les Normands aussi. Amen. Amen.